Mes chers collègues, je vous propose d'ouvrir cette séance du Conseil municipal.
Pour faire voter. Mais c'est pas forcément le plus âgé, c'est même le premier adjoint peut le faire. Hein.
Bon. Oui. Et je vous propose tout de suite de passer à l'appel. Donc alors Pierre, oui, Balestra Claude. Balestra Johan, Beaubreuil Bernard, Baudet Hervé, Chabot Mireille, Chazla Laurence, Chazelle Anne-Sophie, Coindo Lucien, Compère Béatrice, Coucou Nadège, Crossi Eliane, d'Auvergne Frédéric, Desroches Bernadette, Gandois Philippe, Gerbeau Alex, Granet-Thierry est excusé, représenté par Laurent Chazla, Ladune Clément, Laurentier Noël, Le Kief Didier, Malagnou Bruno, Murat Laure, Pesquet Aurabel excusé, représenté par Bernadette Desroches, Pichon Joël est excusé, représenté par Bernard Beaubreuil. Piel Jean-Sébastien. Pic Clémence est excusé, représenté par Nathalie Tarnot. Non, je croyais que quelqu'un avait dit présent, c'est pour ça que je levais la tête. Razoa Fenozoa Esther. Roi Didier. Séba Julia. Simono Christelle. Tarnot Nathalie. Tricard Stéphanie. Vacheux Christophe, excusé, représenté par mes soins. Secrétaire de séance, dans l'ordre du tableau, Chazelle Anne-Sophie. Eh bien, on va passer à Coindo Lucien. C'est puisqu'on est dans l'ordre du tableau. C'est pour ça que je regardais ma liste, je me disais il y a quelque chose qui ne va pas. Je remercie la présence de monsieur le trésorier, monsieur Puech, donc qui est, comme il m'a dit, de passage chez nous, mais qui est là pour la présentation des comptes de gestion ce soir. C'est pour cette raison que je vais vous proposer qu'on inverse un peu la réunion, c'est-à-dire qu'on fasse les comptes administratifs et comptes de gestion en premier, de manière à pouvoir ensuite le libérer, et après il y aura le conseil municipal sur le débat d'orientation budgétaire, enfin la partie débat orientation budgétaire. Il y a à l'ordre du jour, avant d'arriver au compte administratif, la validation du compte rendu de la séance du conseil municipal du 4 février 2021. Est-ce qu'il y avait des remarques, des abstentions, des votes contre? Donc je considère qu'il est adopté à l'unanimité. Donc, par rapport au compte administratif, ce compte administratif du budget général de la commune, donc donne lecture de la gestion de la collectivité et des politiques menées, les effets de la Covid-19 et de la crise économique consécutive ne devraient pas se dissiper à court terme, notamment pour les dépenses sanitaires qui sont appelées à perdurer. D'autre part, le bouleversement fiscal que provoque la suppression de la taxe d'habitation et les modalités de son remplacement, mais aussi la réduction des impôts dits de production, modifie en profondeur deux des éléments clés des stratégies financières locales élaborées depuis la décentralisation, puisque le poids des impôts locaux et la capacité notamment à user du pouvoir de taux. Les mesures d'économie mises en place commencent à porter leurs effets. Les dépenses de personnel sont maîtrisées. La baisse induite par la crise de nos charges à caractère général et les efforts sur les organisations sont positifs, mais ne sont pas sans limite. La ville reconstruit progressivement son fonds de roulement. Pour assurer le financement de nos futurs investissements, la ville doit poursuivre sa politique d'amélioration et de modernisation de sa gestion, malgré les contraintes imposées par l'État, notamment la baisse des dotations et la fiscalité. Le résultat de clôture 2020 est excédentaire de 4 051 606,35 €, compte tenu des résultats par section, notamment un excédent de 4 072 158,90 € de la section de fonctionnement, résultat qui sera affecté à l'exercice 2021, il y a un déficit de 20 552,55 € de la section d'investissement. Concernant la section de fonctionnement, les recettes totalisent 15 270 206,52 €. Les impôts et taxes composés des taxes foncières et d'habitation, mais aussi de l'attribution de compensation versée par la communauté de communes, représentent à eux seuls 77,93% des recettes réelles. Les dotations et subventions avec les dotations de l'État, DGF et DSU, représentent 15,39% des recettes réelles de fonctionnement et connaissent une baisse par rapport à 2019 de 4%. Pour rappel, les années 2014, 2015, 2016 et 2017 ont connu une baisse régulière de plus de 12% chaque année. Seule l'année 2018 avait affiché une légère augmentation, tandis que 4% de baisse ont déjà été enregistrés pour l'année 2019. De mémoire, et en essayant de ne pas me tromper, il faut se rappeler que la dotation globale de fonctionnement pour la commune de Saint-Junier aux alentours de 2015 devait être à environ 1 200 000 euros, lorsqu'elle est aujourd'hui aux alentours de 500 000 euros. Ce qui vous donne l'immensité de la perte. Les autres recettes de fonctionnement correspondent aux atténuations de charges, essentiellement des remboursements de rémunération et de charges sociales pour maladie. Au produit des services, la baisse de presque 20% de ce chapitre s'explique par la crise sanitaire et la fermeture durant 2020 de certains services pendant la période du confinement. On peut parler de la restauration municipale, du centre de l'accueil de loisirs sans hébergement et de d'autres structures, également aux recettes de location d'immeubles et aux produits exceptionnels. Les dépenses de fonctionnement totalisent 14 463 900,67 €, soit 81,08% du total des dépenses du compte administratif 2020. Elles sont composées des charges de gestion courante, des charges de personnel et des charges financières exceptionnelles. La baisse de presque 10% des charges à caractère général s'explique là encore par la crise sanitaire et la non-réalisation de nombreuses actions et manifestations qui étaient initialement prévues en 2020. Nos efforts de gestion doivent néanmoins se poursuivre sur 2021, notamment pour ce qui concerne nos charges de personnel. L'exécution budgétaire 2020 de la section d'investissement fait ressortir un déficit de financement de 20 552,55 €. Les ressources d'investissement totalisent pour leur part 1 590 276,99 €, soit 9,43% des recettes du compte administratif 2020, et sont composées en majorité par les dotations et fonds propres pour 346 120,12 € et les subventions des partenaires. Rappelons que 368 167 € de subventions restant à percevoir sont inscrites en reste à réaliser. Elles concernent essentiellement les travaux liés à l'UCPA. Les dépenses d'investissement se montent à 3 376 641,21 € et représentent 18,92% des dépenses totales de 2020. La commune rembourse notamment plusieurs emprunts dont le montant global en remboursement du capital s'élève pour 2019 à 889 794,29 €. La courbe de notre dette devrait connaître un nouveau fléchissement en 2021. Notamment en fin d'année. Les dépenses d'équipement brut s'élèvent à 1 223 858,07 €. L'année 2020 a été marquée par les investissements suivants, donc les travaux de l'UCPA qui vont se terminer cette année, des travaux et achats de matériel et mobilier dans les écoles, des travaux sur la voirie communale. Rappelons que 2 330 785 € de dépenses sont inscrites en reste à réaliser et concernent principalement l'UCPA, puisqu'on pensait aller plus vite, mais avec la Covid-19, tout a été retardé, notamment au niveau des entreprises. Voilà, mes chers collègues, les principaux éléments du compte administratif que je vous propose d'adopter ce soir. Avant de laisser la parole à Lucien Coindeau, puisqu'après recherche, on a constaté que c'était quand même notre doyen. Mais félicitations, monsieur Coindeau, je ne sais pas en quel sens il faut le dire, mais bon, il en faut un, de toute façon. Puis tu as l'habitude, l'année dernière, c'était déjà ça. On peut répondre à vos questions si vous en avez. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, en sachant qu'avec le soleil, je ne vois pas trop par là. Hein, donc, j'ai pas pris les lunettes de soleil ce soir. Pas de questions. Donc, je vais laisser monsieur Coindeau présider et après, on passera au compte de gestion. Mais je me retire pendant le vote. Il faut sortir pendant le vote.
mes chers collègues, monsieur le maire s'étant retiré, après vous avoir donné donc lecture du compte administratif exercice 2020, je vous propose de voter ce compte administratif. Est-ce qu'il y a des voix contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Eh bien, je vous remercie.
Bien, je vous remercie pour votre vote, monsieur le trésorier. Je vais peut-être vous passer le micro pour celui-là, comme vous voulez. Mais vous avez, oui, celui-là, peut-être. Voilà. Pour votre compte de gestion.
Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Alors, effectivement, mon compte de gestion est tout à fait en accord avec votre compte administratif que vous venez de voter. Les chiffres sont les mêmes. Le compte. De la commune et des budgets annexes a été visé par la directrice des finances publiques à Limoges et a été signé par moi-même. Voilà, donc les résultats sont conformes.
Bien, je vous remercie. Je vous propose de prendre acte du compte de gestion de monsieur le trésorier. Pas de problème. Donc je vous propose de passer à l'affectation du résultat du budget général. Notre collègue monsieur Gerbault.
Merci monsieur le maire, mes chers collègues. Donc budget général, affectation du résultat exercice 2020. Donc après avoir entendu lors de cette séance le compte administratif du budget général de l'exercice 2020, le conseil municipal, après délibération, va décider d'affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit. L'affectation article 1068, financement de la section d'investissement, 1 983 170,55 €. Le reste sur excédent de fonctionnement à reporter, report ligne 002, budget primitif 2021 à 2 088 988,35 €, et décide de reporter le déficit de la section d'investissement, report de la ligne 001, budget primitif 2021, moins 20 552,55 €.
Bien, je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Notre collègue Philippe Gandois concernant le compte administratif du budget camping.
Le résultat de clôture 2020 est excédentaire de 20 028,25 €, compte tenu du résultat de la section de fonctionnement qui dégage un excédent de 30 613,82 € et du déficit de la section d'investissement de 10 585,57 €. Les recettes correspondent au titre émis pour les redevances du service pour un montant de 35 545,17 € et 8 700 € pour les amortissements de subventions. Les charges à caractère général sont essentiellement des frais de consommation d'eau et d'énergie pour 6 206,22 €, de taxes foncières pour 4 355 €, d'achat de petits matériels et de fournitures pour le fonctionnement du service et les assurances obligatoires. Les frais de personnel s'élèvent à 11 337,35 €. Pour ce qui concerne les ressources d'investissement, seules des opérations d'ordre concernant les amortissements ont été réalisées à hauteur de 13 762,78 €. Les opérations d'investissement réalisées cette année concernent 27 000 € de remboursement d'une avance au budget principal. Seules les opérations d'ordre ont été inscrites en plus pour un montant de 8 700 € pour l'amortissement de subventions. Voilà, chers collègues, les principaux éléments du compte administratif que je vous propose d'adopter ce soir.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions sur ce compte administratif ? Non. Des abstentions ? Des votes contre ? Adopté à l'unanimité. Monsieur le trésorier, pour votre compte de gestion.
Alors, le compte du camping, le compte de gestion est également en conformité avec votre compte administratif.
Ah, c'est que vous n'avez pas entendu. Si, non, mais c'est qu'il faut rapprocher le micro.
Alors, le compte de gestion est conforme à votre compte administratif concernant le camping également.
Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, je vous propose de prendre acte. Pas de problème, pas d'abstention, pas de vote contre. Notre collègue Didier Lequièvre pour l'affectation du résultat.
Donc après avoir entendu lors de cette séance le compte administratif du budget camping de l'exercice 2020, le conseil municipal après délibération donc décide d'affecter le résultat cumulé d'exploitation comme suit. 1. Affectation article 1068 de 10 585,57 €. En 2, le reste sur excédent de fonctionnement à reporter de 20 028,25 € et de reporter le déficit de la section d'investissement, report ligne 001 budget primitif de 2021 à moins 10 585,57 €.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des votes contre? Adopté à l'unanimité. Notre collègue Bernard Beaubreuil, compte administratif budget lotissement.
Monsieur le maire, chers collègues, le résultat de clôture 2020 est déficitaire de 33 812,15 €. Compte tenu du résultat de la section d'investissement. Les écritures concernent la constitution des stocks et en cours de production de biens liés à cette opération de lotissement, 20 218,28 €. Voilà, chers collègues, les principaux éléments du compte administratif que je vous propose d'adopter ce soir.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des votes contre? Adopté à l'unanimité, monsieur le trésorier.
Eh bien, le compte lotissement est également conforme à votre compte administratif.
Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous propose donc de prendre acte du compte de gestion concernant le budget lotissement. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Pas de problème. Donc, nous passons à l'affectation du résultat. Notre collègue Didier Rouen.
Merci. Après avoir entendu lors de cette séance le compte administratif du budget lotissement de l'exercice 2020, il vous est proposé, après délibération, de décider d'affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit. Affectation, article 1068, financement de la section d'investissement 0 €. Reste sur excédent de fonctionnement à reporter, report ligne 002, budget primitif 2021, 0 €. De décider de reporter le déficit de la section d'investissement, report ligne 001, budget primitif 2021, moins 33 812,15 €. Merci.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Et ça, on ne le fait pas exprès, mais ça va être à notre collègue Béatrice Compère concernant le compte administratif budget des pompes funèbres, exercice 2020.
Alors, le résultat de clôture 2020 est excédentaire de 11 003,84 €. Compte tenu du résultat de la section de fonctionnement, pour laquelle l'excédent antérieur reporté a été enregistré à hauteur de 15 723,03 €, auquel il faut rajouter 8 455,28 € de recettes des produits des services, 13 174,47 € de mise à disposition personnelle sont inscrits en dépenses. Ce budget créé en 2006 ne comporte pas de section d'investissement. Voilà, chers collègues, les principaux éléments du compte administratif que je vous propose d'adopter ce soir.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des votes contre? Adopté à l'unanimité. Monsieur le trésorier.
Le compte de gestion des pompes funèbres est conforme également au compte administratif.
Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vous propose de prendre acte du compte de gestion. Et notre collègue Claude Balestra va vous proposer l'affectation de résultats.
Alors, après avoir entendu lors de cette séance le compte administratif du budget pompe funèbre de l'exercice 2020, il vous est demandé d'affecter le résultat cumulé d'exploitation comme suit. Affectation article 1068, financement de la section d'investissement 0 €. Reste sur excédent de fonctionnement à reporter, report ligne 002, budget primitif 2021, 11 003,84 €. Et de décider de reporter l'excédent de, la section de d'investissement de 0 €.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions? Des abstentions? Des votes contre? Adopté à l'unanimité. Notre collègue Eliane Crossi, concernant le compte administratif du budget photovoltaïque.
Merci, monsieur le maire, chers collègues. Le résultat de clôture 2020 est excédentaire de 28 597,38 €, compte tenu du résultat de la section de fonctionnement pour laquelle l'excédent antérieur reporté a été enregistré à hauteur de 24 567,28 €, auxquels il faut rajouter 4 030,10 € de recettes pour la vente d'énergie. Voilà, chers collègues, les principaux éléments du compte administratif que je vous propose d'adopter ce soir.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions? Des abstentions? Des votes contre? Adopté à l'unanimité. Monsieur le trésorier, pour votre compte de gestion.
Également, le compte de gestion du budget annexe énergie photovoltaïque de Saint-Junien est conforme à votre compte administratif.
Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous propose donc de prendre acte du compte de gestion. Pas de problème. Notre collègue Christelle Simoneau concernant l'affectation du résultat du budget photovoltaïque.
Monsieur le maire, chers collègues, après avoir entendu lors de cette séance le compte administratif du budget énergie photovoltaïque de l'exercice 2020, le conseil municipal, après délibération, décide d'affecter le résultat cumulé d'exploitation comme suit. Affectation article 1068, financement de la section d'investissement 0 €. Reste sur excédent de fonctionnement à reporter, report ligne 002 budget primitif 2021, de 28 597,38 €. Décide de reporter l'excédent de la section d'investissement, report ligne 001 budget primitif 2021, 0 €.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions? Des abstentions? Des votes contre? Adopté à l'unanimité. Nous avons donc terminé l'ensemble des comptes administratifs et des comptes de gestion. Monsieur le trésorier, si vous souhaitez partir ou rester, comme vous voulez. Oui, on peut vous libérer, donc il n'y a pas de problème. Donc merci de votre présence pour ces comptes de gestion. Et puis, merci et bonne soirée.
Merci, vous aussi. Au revoir à l'Assemblée.
Je vous propose donc de poursuivre avec notre collègue Esther Azoua-Fenozoa concernant la convention de détection d'anomalies sur les points de comptage d'éclairage public.
Considérant la mise en place d'une expérimentation sur un dispositif de mise à disposition des données de comptage d'énergie électrique mesurée et d'alerte liées au niveau de consommation sur le parc d'éclairage public, considérant que cette expérimentation est rendue possible par le déploiement de compteurs communicants, considérant que le système d'alerte a pour objet de détecter des anomalies de fonctionnement sur le point de mesure de l'éclairage public et ainsi permettre à la commune de Saint-Junien d'améliorer le suivi et la maintenance de son parc. Je vous demande de délibérer.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Piel.
Monsieur le maire, mes chers collègues, cette convention avec Enedis semble intéressante. Elle va permettre une détection des anomalies, surcharges et coupures plus rapide, et c'est une bonne chose. Il n'est cependant pas indiqué dans le document que l'on a reçu l'interlocuteur à la mairie qui recevra les alertes. Pouvez-vous nous donner quelques détails sur comment cela gérer en interne? L'éclairage public a été moins utile ces dernières semaines pour cause de couvre-feu, mais il n'en demeure pas moins indispensable pour nos concitoyens se déplaçant sur la voie publique, surtout au moment de forte circulation. et je pense ici aux problèmes que l'on a pu subir pendant les fêtes de fin d'année. Corrigez-moi si je me trompe, mais la maintenance de l'éclairage public est assurée par une société externe. Cette société était fermée 15 jours en raison des fêtes et avait une astreinte que nos services techniques pouvaient appeler. Beaucoup de quartiers ont connu des coupures pendant cette période, de nouvelles coupures se produisant quand d'autres se réglaient. Le délai de résolution était d'au moins une semaine, entre le temps de détection, le temps de contact de l'astreinte et le temps de résolution, un délai trop long pour nos concitoyens. On améliore par cette convention le délai de détection. Ne pourrait-on pas également essayer d'améliorer le délai d'intervention ? Pourrait-on envisager une convention équivalente avec la ou les sociétés qui font la maintenance de l'éclairage public sur la commune et automatiser le transfert des alertes reçues de la part d'Enedis ? Merci.
Alors, d'abord, qui est-ce qui va recevoir ces alertes ? Ce sont nos services techniques, hein, puisque c'est eux qui sont à même systématiquement de contacter la société. Lorsqu'on nous signale une panne, la société est contactée dans les 2 heures qui suivent le signalement de la panne. Les sociétés sont choisies par le syndicat départemental d'électrification, à qui nous faisons remonter les remarques, et nous avons fait remonter effectivement les remarques du fait que les délais n'étaient pas assez rapides, on va dire, pour les réparations, mais je dirais que les services techniques ont bien fait le nécessaire. Tout a été signalé à celui qui a signé le contrat, c'est-à-dire le syndicat départemental d'électrification, pour que ce syndicat puisse faire la remarque à cette société et appliquer, s'il en a la possibilité, les pénalités qui sont de mise à appliquer dans ces cas-là. Mais c'est le syndicat, le SEHV, le syndicat d'électrification de la Haute-Vienne, c'est plus le syndicat départemental, ça a changé de nom entre-temps, le SEHV qui en charge ce type de gestion. Donc ce n'est pas la ville qui passe les contrats directement, puisque vous avez une partie éclairage public qui est sous gestion SEHV. Donc on signale au SEHV, mais lorsque vous contactez les services techniques, le signalement est fait dans la matinée, si c'est le matin, dans l'après-midi, si c'est l'après-midi. On signale aussitôt avec le numéro, à condition qu'on ait le numéro du poteau. Bon, quand c'est un quartier, c'est plus simple, parce que souvent, c'est la cellule... je ne sais plus comment on l'appelle, l'horloge, je ne sais pas quoi, là, qui est grillée. Après, il faut que la société ait le matériel nécessaire pour réparer. Mais le signalement par nos services est fait aussitôt que c'est transmis, que la remarque est transmise au service technique. Voilà ce que je peux vous répondre. Là, cette convention, elle doit nous permettre d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire lorsqu'une personne ne sera pas, parce qu'on ne nous signale pas toujours un poteau par-ci, par-là, qui ne marche pas. Donc cette convention doit nous permettre, par le biais d'Enedis, d'aller chercher justement ce type de panne et de pouvoir le signaler encore plus rapidement sans qu'on, si quelqu'un ne nous appelle pas, qu'on puisse le voir et le signaler après au prestataire qui envoie l'entreprise qui est concernée sur le territoire. Je ne sais pas, M. Burguet, si tu as quelque chose aussi. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Je vous en remercie. Notre collègue Mireille Chabot, concernant le déclassement d'une partie du domaine public.
Vu la loi numéro 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, vu la loi numéro 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement, vu l'article L141-3 du Code de la voirie routière, vu la demande de M. Bouny-Jérôme portant acquisition d'une partie du domaine public, 6 rue de Nontron, au droit de sa propriété cadastrée section AH numéro 137. Considérant que cette partie du domaine public, 6 rue de Nontron, du fait de son utilisation et de sa configuration, peut faire l'objet d'un déclassement en vue de sa cession à M. Bouny-Jérôme. Vu la demande de la SCI immobilière Nontron, représentée par M. Jean-Louis Rougier, portant acquisition d'une partie du domaine public 6 rue de Nontron, au droit de sa propriété cadastrée section AH numéro 245. Considérant que cette partie du domaine public 6 rue de Nontron, du fait de son utilisation et de sa configuration, peut faire l'objet d'un déclassement en vue de sa cession à M. Bouny-Jérôme. Considérant que le déclassement de cette partie du domaine public 6 rue de Nontron n'a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par cette partie du domaine public, il vous est proposé de donner une suite favorable à ces requêtes.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on passera à la prochaine. Peut-être au prochain conseil, je ne sais pas, mais la partie vente avec le prix. Mais il faut d'abord qu'on déclasse. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Adopté à l'unanimité. Notre collègue Noël Laurentier concernant la mise en sécurité de la voie publique au niveau du 9 rue des Églantiers.
Le 22 janvier 2021, suite à de fortes intempéries sur la commune de Saint-Junien, un mur de clôture s'est effondré sur la voie publique au niveau du 9 rue des Églantiers, 87 200 Saint-Junien. Ce mur de clôture est situé sur la parcelle cadastrée AB 674, appartenant à la société Almar Trading à Charmoyer 69 620 Le Breuil. Sa structure a été fragilisée par la pousse depuis de nombreuses années de végétaux qui représentent un défaut d'entretien normal. Afin de garantir la sécurité des biens et des personnes, les services techniques municipaux sont intervenus le 22 janvier 2021 pour mettre en sécurité la voie et déblayer les végétaux qui entravaient le domaine public. Un bon d'intervention numéro BT 21 010 363 a alors été émis d'un montant de 222,89 euros. Considérant que la charge de cette intervention doit revenir au propriétaire du mur, il vous est demandé, chers collègues, d'autoriser le maire à reprendre toutes les démarches nécessaires afin de facturer à la société Almar Trading l'intervention de déblaiement du 22 janvier 2021.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions? Des abstentions? Des votes contre? Adoptés à l'unanimité. Notre collègue Clément Ladune concernant la motion Hercule.
Merci. Alors, motion du conseil municipal de la ville de Saint-Junien contre le projet Hercule de démantèlement d'EDF. Considérant le projet de réorganisation du groupe EDF baptisé Hercule, permettant de scinder le groupe en trois entités, considérant que le projet Hercule a été élaboré par des banques d'affaires à la demande de la direction d'EDF afin de répondre aux préconisations de la commission de Bruxelles en matière d'ouverture à la concurrence et de démantèlement des services publics, considérant que ce découpage va entraîner la privatisation des activités rentables et la socialisation des activités déficitaires, considérant qu'en introduisant en bourse la partie la plus rentable de l'entreprise EDF Vert et en préparant la cession future des barrages électriques, ce projet s'apparente à un schéma purement financier et vise à spolier un bien public sans envisager la moindre amélioration du service rendu à la collectivité nationale. Considérant l'indépendance énergétique de notre pays qui serait à nouveau menacée, considérant que non seulement les tarifs augmenteraient significativement, mais qu'ils pourraient également être différents dans chacune des nouvelles entreprises, des nouvelles sociétés privées, ce qui risquerait de marquer la fin du tarif unique au niveau national et donc la fin de l'égalité de traitement des ménages. Considérant que les investissements nécessaires sur l'outil productif ne sont plus assurés et la péréquation tarifaire est menacée, considérant l'article L100-1 du Code de l'énergie qui dispose que la politique énergétique de la France doit notamment garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d'accès de tous les ménages à l'énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources et permettre de lutter contre la précarité énergétique. Par ces divers motifs, Nous demandons au président de la République de renoncer au projet Hercule et exigeons que soit réalisé, avant toute autre action, un bilan financier, humain et écologique des directives de déréglementation du secteur de l'énergie. Demandons un véritable débat national sur ces questions pour la défense et le développement de ce service public et la promotion de ses valeurs. L'énergie et ses moyens de production sont la propriété de l'ensemble des citoyens de ce pays. Demandons qu'afin d'assurer la nécessaire transition énergétique et l'accès à tous de l'énergie, soit créé un grand service public de l'énergie qui, seul, pourra permettre de répondre aux besoins énergétiques de l'ensemble des usagers et, en premier lieu, les plus précaires et qu'en conséquence, le droit à l'énergie devienne pleinement effectif pour toutes et tous partout. Rappelons que l'égalité de traitement des usagers, la péréquation tarifaire et la tarification réglementée soient pérennisées et étendues pour répondre aux défis de la précarité énergétique, aux besoins d'investissement considérables pour l'indispensable transition énergétique et écologique et le développement durable. Merci.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions sur cette motion, Monsieur d'Auvergne ?
Monsieur le maire, mes chers collègues, au regard des informations dont nous disposons donc sur le projet concernant le projet Hercule, le groupe Énergie Citoyenne est effectivement très inquiet et se tient associé à toutes celles et ceux qui, salariés, représentants du personnel, citoyens, associations et élus, qui veulent un service public fort. Car seul le service public de l'énergie permettra de réussir la transition énergétique dont nous avons besoin. Néanmoins, notre groupe n'a pas été associé à la rédaction de ce texte, comme il est d'usage pour les vœux qui ont vocation à faire consensus. C'est pour cela que nous vous demandons, Monsieur le maire, mes chers collègues, de reporter l'adoption de cette motion, le temps nécessaire de la réécrire ensemble, tout en rappelant bien sûr de notre adhésion sur le contenu de cette motion.
Alors, moi, je dois dire que c'est une motion, c'est exactement la même que celle qui a été présentée au Conseil départemental. Les motions dans l'institution départementale ne sont pas forcément préparées par l'ensemble des groupes. Elles sont présentées et discutées ensuite en séance avec des modifications qui peuvent être proposées ou adoptées ou des amendements par rapport à ce projet. Moi, je me retourne vers mes collègues pour que chacun puisse s'exprimer et savoir ce qu'il en pense, ou si vous avez des modifications déjà à apporter, à proposer sur cette motion.
Donc, des modifications dans l'instant immédiate, non, on en a réfléchi, mais bon, on souhaite bien sûr partager donc la réécriture de cette motion avec l'ensemble des élus, du moins le groupe communiste. Donc ce serait quand même prématuré déjà d'avancer nos propositions. Ce serait aussi donc de voir ensemble donc pour cette réécriture. Donc moi je ne veux pas les présenter là en l'état aujourd'hui, mais juste discuter avec ceux qui l'ont écrite.
Bien, donc je vais demander à la représentante du groupe communiste.
Oui, alors moi, je suis un petit peu troublée par ce que j'entends là. Cette motion, nous l'avons portée, sachant qu'elle a déjà été écrite par nos collègues du département, donc elle n'appartient pas qu'aux élus communistes. Hein, je veux dire, elle appartient aux élus des forces de gauche qui sont représentés au département et qui sont représentés ici dans cette municipalité. Donc s'il doit y avoir à nouveau discussion, réécriture
Ce sera avec toute l'équipe et pas qu'avec les élus communistes. Je rappelle que nous sommes effectivement des élus communistes, mais que nous faisons partie de la liste majoritaire et qu'à partir de là, nous travaillons ensemble. Voilà ce que j'avais à dire.
Bien, sur les autres présidents de groupe, Monsieur Baudet.
Bon, effectivement, c'est présenté par nos collègues du groupe communiste, mais c'est effectivement une motion qui a été discutée en groupe du nom de la gauche, en préparation du conseil municipal. Elle est présentée en l'état. Il vous appartient, je pense, de prendre vos responsabilités et soit de la voter, ce qui, ou pas, me semble-t-il.
Monsieur Lequief et Monsieur Balestra.
Ce que je voulais rajouter par rapport à ce qu'a dit Eliane, c'est que vous l'avez quand même reçu. Enfin, vous auriez pu penser peut-être, si vous vouliez rajouter quelque chose, y penser à l'avance, quoi, que de nous demander de reporter pour pouvoir réécrire. Voilà, c'est quelque chose qui a été fait avec tout le monde. Et...
Oui, monsieur le maire.
Monsieur Balestra.
Oui, merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Il a été rappelé par notre collègue Frédéric d'Auvergne que l'usage que l'on a eu depuis le début du mandat sur ces textes qui n'ont pas eu de préparation dans des instances dans lesquelles on siège, à savoir les commissions, comme peuvent l'être les différentes délibérations, nous ont toujours été envoyés en amont de l'envoi des délibérations. Ça a été vrai sur les différents textes précédents. Là, ce n'a pas été le cas. On l'a reçu avec la délibération. Ça a déjà été dit sur le contenu. On s'y retrouve pleinement. Par contre, il y a des formulations avec lesquelles on n'est pas d'accord, soit sur la forme, soit parfois sur le fond. Il y a quelques inexactitudes. Donc, on aimerait le retravailler de façon globale, de façon consensuelle, pour arriver à un texte qui soit peut-être, à notre avis, meilleur que celui qui nous est présenté. Voilà, c'est une main tendue et on peut comprendre que vous l'ayez déjà travaillé, si je puis dire, entre vous. Là, il a vocation à être adopté par l'ensemble du conseil municipal et donc on ne siège pas dans certaines instances puisqu'elles concernent uniquement par définition la majorité. Donc voilà, c'est simplement un défaut de dialogue qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve pris entre deux feux. Voilà. Si jamais vous décidiez de maintenir le vote de cette motion, nous décidons de ne pas prendre part au vote et de ne pas nous exprimer sur ce texte, même si on l'a déjà dit, sur le fond, on partage.
Monsieur Lequief.
Enfin, vous dites que sur la forme, ça ne va pas, mais il faudrait expliquer ce qui ne va pas dans la forme. Et les choses inexactes, il faudrait peut-être aussi nous expliquer. Enfin, si vous êtes capable de le dire, c'est que vous le savez déjà d'avance. Donc, expliquer ce qui ne va pas dans la forme et expliquer ce qui n'est pas exact dans ce qui a été rédigé.
Très souvent, on nous reproche en instance de ne faire un travail qui aurait dû avoir lieu en commission ou en groupe. Là, je vois que finalement, c'est l'inverse. On nous demande finalement de faire le travail qu'on aurait dû faire avant. Je ne sais pas si on peut en lister. Moi, j'en ai sous les yeux. Je vais en prendre une seule inexactitude. Quand on parle aujourd'hui de l'indépendance énergétique de notre pays qui sera à nouveau menacée, mais on n'est pas indépendant énergiquement aujourd'hui. On ne l'est pas. C'est faux. C'est-à-dire que l'énergie nucléaire ne nous permet pas d'être indépendants. D'où provient l'uranium ? D'où provient l'uranium ? Voilà, donc c'est sur ce genre de choses qu'on aurait aimé justement pouvoir avoir une rédaction qui nous semble à nous beaucoup plus juste. Et puis, insister sur la notion de transition énergétique qui est évoquée, mais sur laquelle on pourrait insister là aussi par rapport au devenir d'EDF. Et puis, quelques termes qui, à notre sens... Voilà, sur lesquels on aurait pu échanger. Bon, voilà, la décision vous appartient et évidemment, on la respectera.
Bien, alors, je vais proposer de façon très démocratique à Monsieur Guendo, pardon. Je vous avais oublié, vas-y.
Merci. Oui, enfin, après ce que j'ai compris, donc, cette motion, on est dans un mouvement qui a été initié par le département. Donc, les choses ont déjà été extrêmement traitées, enfin bien traitées.
Attends, je m'excuse. Ça a été initié par les groupes de gauche au département.
Par les groupes de gauche, tout à fait. Ouais. OK. Par les groupes de gauche au département. Donc, nous en avons été informés. Moi, j'ai fait les remarques concernant les barrages à l'occasion des discussions. En ce qui concerne donc l'urgence quand même de cette motion par rapport aux travaux menés par le gouvernement, il me semble qu'il serait important d'agir maintenant et de ne pas reporter sans cesse, dans la mesure où effectivement c'est pas un travail définitif. Il y aura certainement, si on arrive à faire bouger le gouvernement, l'occasion de s'impliquer plus profondément dans un certain point qui sont exprimés dans cette motion. Donc si je trouve que la formulation au niveau où nous en sommes de la revendication me satisfait, enfin, de notre représentation.
Bien, alors, je voulais donc dire juste avant, je vais proposer très démocratiquement un vote pour savoir si on maintient ou pas cette motion en l'état. Si on ne la maintient pas, elle sera représentée au conseil municipal du 1er avril. Et je vais vous informer comme ça. On ne pourra pas m'accuser d'orienter le vote. Ayant été représentant au département, je ne vais pas prendre part au vote. Comme ça, je laisserai toute démocratie aux uns et aux autres pour pouvoir s'exprimer. Et ça évitera des fois de voir apparaître mon nom où il n'a pas besoin d'apparaître. Donc, est-ce qu'il y a... Donc, je soumets au vote la proposition de report au 1er avril ou de maintien. Donc, dans un premier temps, on va voter ceux qui sont pour le report au 1er avril, qui est pour 6, puisqu'il doit y avoir une procuration, qui s'abstient, une abstention, donc 6 contre une abstention. Donc, on maintient, et en notant que 2 abstentions, puisque je ne prends pas part au vote. Alors, je ne sais plus comment on les compte en abstention ou autre, peu importe. Donc, je vous propose de passer au vote de cette motion en l'état. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Donc, voter à la majorité, les 6 représentants du groupe Énergie Citoyenne ne prenant pas part au vote. Oui, considéré comme une abstention, oui, oui. Donc, je vous remercie. Je vous informe que vous avez dans vos dossiers l'approbation des décisions prises depuis le 4 février 2021. Je clôture cette première séance du Conseil municipal. Je vais recommencer l'appel pour l'enregistrement simplement. Et nous allons aborder la deuxième séance du Conseil concernant le débat d'orientation budgétaire 2021. Donc je refais l'appel, c'est pour que l'enregistrement soit bien calé. Donc Alard-Pierre présent, Balestra Claude, Balestra Johan, Beaubreuil Bernard, Baudet Hervé, Chabot Mireille, Chazla Laurence, Chazelle Anne-Sophie, Coindo Lucien, Compère Béatrice, Coucou Nadège, Crossi Eliane, Dauvergne Frédéric, Desroches Bernadette, Gandois Philippe, Gerbeau Alex, Granet Thierry, représenté par Laurent Chazla, Ladune Clément, Laurentier Noël, Le Kiev Didier, Malagnou Bruno, Murat Laure, Pesquet Aurabel excusé, représenté par Bernadette Desroches, Pichon Joël excusé, représenté par Bernard Beaubreuil, Piel Jean-Sébastien, Pic Clémence excusé, représenté par Nathalie Tarnot, Razo Afenoso à Esther, Roi Didier, Seba Julia, Simono Christelle, Tarno Nathalie, Tricard Stéphanie, Vacheux Christophe excusé, représenté par mes soins. Donc, on va garder, si vous le souhaitez, le même secrétaire de séance ou Madame Chazelle, peu importe, puisqu'elle est arrivée, comme vous voulez, Madame Chazelle, comme ça vous serez partagé. Chacun son tour entre Lucien Coindo et Anne-Sophie Chazelle, puisque c'est en l'ordre du tableau, mais vous n'étiez pas arrivé tout à l'heure. Donc je vous propose de passer au débat d'orientation budgétaire et je vais laisser la parole à Stéphanie Fourgeau.
Bien, je vais peut-être. Vous avez tous été destinataires du document donc, qui a été aussi vu en commission des finances. Je vais peut-être réduire et vous présenter très rapidement, en résumant, la première partie concernant la loi de finances et qui fait partie des obligations en termes d'information, mais qui n'a que très peu d'impact cette année, puisqu'il n'y a pas de modification particulière, si ce n'est que elle continue toujours à éroder en fait le levier fiscal que vous aviez jusque-là. De par, sur le premier point, la réforme de la taxe d'habitation qui est en cours et qui va se poursuivre jusqu'en 2023. La deuxième chose, c'est que nous allons perdre beaucoup, mais ça concerne plus les EPCI au niveau du bloc local. Nous allons avoir une réduction de moitié du taux appliqué sur le calcul des valeurs locatives des établissements industriels. Pour notre territoire, c'est environ 30% de moins de recettes fiscales, donc ce qui n'est pas négligeable. Et le troisième point qui concerne la plus les communes, c'est la centralisation de la taxe sur les consommations finales d'électricité, où là, vous n'avez plus la main en termes de, taux. Jusque-là, pour la commune de Saint-Junien, c'était délégué au syndicat d'électrification. Mais même au syndicat d'électrification, nous aurions pu négocier un taux supplémentaire, sauf que là, vous n'avez plus cette possibilité-là. Donc effectivement, le levier fiscal va être de plus en plus difficile à actionner. Sur les autres aménagements, il n'y a pas de changement majeur, notamment au niveau des dotations d'État liées à l'investissement et aux aménagements de la fiscalité. Sur la TH, nous devrions retrouver euro pour euro ce que nous avions jusque-là. Pour l'instant, donc c'est ce qui nous avait été aussi annoncé lors de la réforme de la taxe professionnelle en 2012, et on se rend compte que les dotations ont largement baissé depuis cette année-là. Donc si vous n'avez pas de questions particulières sur la loi de finances, je vous propose directement de passer aux données propres de la commune, mais à vous de me dire si vous souhaitez qu'on poursuive ou pas. Je poursuis. Alors, on va passer directement à partir de la page 28. Pour juste prendre, alors on va directement aller à la page 30 pour voir les charges de la structure. Donc les charges de la structure, on commence à les analyser avec le service de la dette, où là cette année vous n'avez plus que le budget principal, donc qui est un capital en dette de 854 000 euros avec des intérêts à hauteur de 153 000 euros. Ce qui est intéressant pour montrer la santé du budget, c'est de voir les trois ratios que vous avez sur la fin de la diapositive. Donc la première, c'est l'encours de la dette, le premier, pardon. Donc l'encours de la dette, c'est le montant total de votre dette que l'on ramène au produit de fonctionnement, donc à vos recettes. Il est à 0,50. On dit qu'il y a un endettement déjà important à partir de 1,8, donc ce chiffre est tout à fait raisonnable et satisfaisant. Les deux autres viennent un petit peu compléter en fait cette image avec la marge d'autofinancement courant. Donc là, ce sont nos charges de fonctionnement que l'on ajoute à notre capital des emprunts, donc on est obligé de rembourser, et que l'on ramène à nos recettes, donc à nos produits de fonctionnement. Et là, vous voyez qu'on arrive à 0,96 et on dit que c'est normal jusqu'à 1. L'année dernière, on était bien en deçà. Et sur la capacité nette de désendettement, c'est notre stock de la dette que l'on ramène à notre autofinancement brut, c'est-à-dire la différence entre nos recettes et nos dépenses de fonctionnement. Et là, nous avons augmenté, on est passé à 5,40 alors que de mémoire, on devait être à 2,60 l'année dernière. Ce phénomène s'explique par deux choses, c'est-à-dire que toujours quand on vous présente les budgets ou les comptes, on vous dit que ce qui est intéressant, c'est le haut de tableau, c'est-à-dire ce que vous pouvez dégager en termes d'autofinancement, c'est-à-dire vos dépenses moins, on va prendre d'abord vos recettes moins vos dépenses, normalement c'est positif dans ce sens-là. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir dégager cet excédent du haut de tableau pour pouvoir vous permettre après et de rembourser vos dettes et surtout d'investir pour les projets que vous avez prévus. Donc cette année, on a eu une double peine, c'est-à-dire que nos produits ont été largement revus à la baisse, notamment au niveau du restaurant scolaire, mais vous l'avez vu au niveau du compte administratif. Donc on a eu moins de recettes et nos dépenses ont été contenues. Mais notre dette, malgré la baisse de 100 000 euros d'emprunt en capital cette année, nous n'avons pas eu l'image et le résultat aussi satisfaisant que l'année dernière parce que notre haut de tableau était moins excédentaire que les autres années. Ce qui fait qu'il faut quand même qu'on garde un œil attentif sur nos dépenses et surtout mobiliser la fiscalité telle qu'elle doit l'être. en sachant que voilà, sur l'année 2021, normalement, on a un emprunt qui s'éteint et on aura à nouveau 200 000 euros de capital en moins à rembourser sur l'exercice 2022. Mais sachant qu'en 2022, on aura aussi un peu moins de lisibilité sur la taxe d'habitation, voilà, donc il va falloir quand même qu'on arrive à contenir les deux bouts. Alors, ça aurait été meilleur si l'année, avec nos recettes, avait été normale et si on avait pu mobiliser l'ensemble des produits des services, notamment la plus grosse partie due au restaurant scolaire. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que c'est clair ou je poursuis? Donc, les deuxièmes points, quand on parle des charges de structure, c'est les frais de personnel. On vous a fait un aperçu des dépenses depuis 2014 pour que vous ayez en tête l'évolution entre 2014 et 2020 et du travail qu'on essaye d'effectuer en termes de réorganisation quand c'est possible, notamment dans nos habitudes de travail ou dans les remplacements notamment, et aussi avec tout le travail qu'on a fait sur le pôle de remplacement en fait, des agents que l'on a titularisés pour les quotités d'heures qui étaient nécessaires. Donc pour 2020, on est à 8 894 616,08. Nous vous avons fait le détail par filière pour que vous puissiez avoir un petit peu plus d'aperçu de la répartition. Pour 2021, ce que l'on attend, c'est quelques modifications, quelques mouvements de personnel qui sont en interne. Alors j'avais dû l'expliquer, mais peut-être que ce n'est pas très clair là pour ceux qui n'ont pas assisté à la commission des finances. La création d'un demi-poste supplémentaire au service sport et manifestations qui découle de plusieurs mouvements et notamment de la création du futur service police municipale. Donc où l'équipe des ASVP a été renforcée et où l'ASVP qui intervenait à mi-temps intervenait aussi à mi-temps sur le service sport et manifestations. Donc cette personne-là est à temps plein sur le service ASVP et sera remplacée par contre à temps plein sur le service sport et manifestations parce que nous avons deux agents dans ce service-là qui ont des problèmes, des troubles musculo-squelettiques et pour lesquels certains réaménagements de poste ont été nécessaires. Donc pour ne pas pénaliser en fait le bon fonctionnement du service quand l'activité reviendra normale, on sera obligé de pallier avec un remplacement à temps complet. Sachant qu'après la création sur le service ASVP, c'est aussi dû au départ de Bernard Grand, qui lui était sur les marchés, donc il n'y a pas de modification particulière. Donc simplement un demi-poste sur le service sport et manif. C'est clair? C'est bon. Ensuite, on prévoit un équivalent temps plein sur ces mois pour la mise en place du potager municipal. Et cette année, nous avons la prise en compte de la prime précarité qui correspond à 10% des charges liées au contractuel. Donc là aussi, qu'il était nécessaire de mettre en plus sur les charges pour 2021. C'est la loi. Oui. Les autres charges courantes, donc là, c'est tout ce qui est charges à caractère général. Donc là, vous voyez que les propositions 2021 ont largement été revues à la hausse à 3 474 000. Donc là, nous sommes simplement en période de débat d'orientation budgétaire. Vous verrez qu'à la fin, ce 3 400 000 paraît trop important et qu'il va falloir le travailler pour qu'on puisse réduire en fait, cette charge-là, pour que vous ayez, tout en conservant les services et les manifestations et toutes les choses qui étaient prévues, que l'on puisse réduire en fait, cette partie de dépenses parce que par rapport au réalisé, on voudrait retomber sur un réalisé 2019, sachant que 2020 ayant été un peu tronqué par la crise sanitaire, on a essayé de ne pas trop se baser sur le réalisé 2020 qui n'était pas forcément parlant pour les prévisions budgétaires. Donc dans ce cadre-là, on maintient par contre les subventions versées aux associations, donc à hauteur de 496 000. Je crois qu'on était à 505 000, mais si on est passé à 496, c'est simplement sur demande de certaines associations qui n'ont pas réalisé certaines manifestations et qui ne voient pas l'intérêt de nous demander les sommes globales.
Voilà. Parce qu'elles avaient quand même eu leur subvention en 2020. Donc comme elles n'ont pas eu d'activité, bon, elles ont eu la subvention. En gros, elles font un break cette année.
C'est ça. Et vous n'avez pas l'habitude de voir un montant de subvention aussi réduit pour le CCAS à hauteur de 80 000 euros. C'est pas une subvention en moins. C'est simplement que le budget CCAS était excédentaire cette année parce que nous avons réussi à mobiliser des subventions notamment de fonctionnement et aussi pour certains projets qui nous ont permis en fait de pouvoir toucher des sommes supplémentaires. Donc d'habitude on est aux alentours de 275 000 euros et ce que nous avons pu percevoir l'année dernière nous permet de verser cette année 80 000 euros, mais le CCAS n'aura pas de budget diminué sur l'année 2021. Donc je préfère le préciser parce que je ne l'avais pas écrit dans le DOB. Ensuite, nous avons rajouté les loyers des maisons de quartier pour 37 000 euros. Et après, toutes les dépenses qui sont liées à la gestion de la crise sanitaire avec l'achat des masques, de gel. Et effectivement, on a des particularités cette année avec une augmentation au niveau de la maintenance informatique et dû essentiellement aussi au changement de logiciel de comptabilité et de ressources humaines où là, nous pourrons travailler de manière plus sereine et plus professionnelle. Et nous avons prévu aussi une maîtrise d'ouvrage, une assistance à maîtrise d'ouvrage pour les marchés assurances, parce qu'il est toujours très difficile quand on n'est pas spécialiste de lire les petits astérix qui sont en bas de page. Et donc, il nous fallait des experts pour pouvoir analyser les marchés tels que nous allions les monter. Donc, voilà pour la partie dépenses. Est-ce que vous avez des questions? Je poursuis. Pour les ressources de fonctionnement, donc on a essayé, au vu des notifications enfin, ou des suppositions que nous pouvions avoir jusque-là, on évalue une DGF aux alentours de 500 000 euros, une DSU aux alentours de 190 000 euros. Nous attendons les notifications officielles. Je ne pense pas que nous les ayons eues depuis la rédaction. Pour les versements de la communauté de communes, donc les données, bien sûr, vont être validées en CLECT courant mars, mais on part sur les mêmes bases que ce qui était prévu, donc avec une dotation d'attribution de compensation qui devrait avoisiner les 3 160 000 euros. Je n'avais pas vu que le 3 était sur le côté, ça m'a fait peur quand j'ai lu les 160 000 euros, avec la dotation de solidarité qui était évaluée à 67 500 euros. Donc là, pas de modification particulière. Il y aura peut-être, en termes de précision, plus de détails au niveau du vote du budget, mais c'est des réajustements, notamment sur les frais exacts que l'on a dans les transferts, vous savez, sur l'instruction du droit des sols où on paye à l'acte réalisé et sur l'épicerie sociale et solidaire là, qui n'était pas rentrée au moment du DOB. Voilà. Pour les recettes fiscales, donc on part sur une augmentation des bases à hauteur de 0,2%. Donc ça nous fait un montant à fiscalité constante. Donc là, il n'y a pas de prévision, la commission n'a pas fait de proposition d'augmentation.
Oui, 0,2, c'est la loi de finances.
C'est la loi de finances, donc à taux constant. Donc ça nous fait une base à 7 100 000 euros. Et les estimations après pour les autres ressources fiscales ont été faites sur celles des bases 2019, puisque les bases 2020 pouvant être un petit peu revues à la baisse. Les produits des services, donc là aussi, on espère ne pas revivre un confinement complet, donc avec une fermeture complète de nos services. Donc on est reparti sur les recettes perçues en 2019. Ce qui fait un budget des produits des services pour le budget principal pardon, à 827 000 euros pour l'ensemble des services. Donc, et bien sûr, il y aura les remboursements de frais de personnel, mais qui du coup n'apparaissent plus, mais qui apparaissent maintenant sur les attributions de compensation, puisque vous savez, c'était les préconisations de notre cabinet d'audit qui ne souhaitait plus qu'on fasse de facture entre la commune et la Comcom, puisqu'on se créait de la richesse supplémentaire. On se montrait plus riche que ce qu'on était, donc on le passe dans les attributions de compensation et ça améliore notre coefficient d'intégration fiscale. Mais sinon, les échanges sont à l'euro près en fonction de qui doit quoi. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Cette année, on est désolé, on n'a pas pu vous présenter les tableaux réels de l'approche de la fiscalité 2021. Donc normalement, vous avez les bases partout et qui dégage en fait les produits. Donc cette année, on est incapable de pouvoir le faire parce que il y a beaucoup de choses qui vont évoluer et que même la DGFiP n'est pas en mesure de nous transmettre pour le moment. Simplement que pour Saint-Junien, on peut simplement vous dire que les estimations sont compliquées et incertaines. Vous savez que cette année, on a un coefficient correcteur qui a été calculé par les services de la DGFiP. en attendant le calcul officiel de la direction générale. Alors, je vous préviens, la Comcom, ça a été un... j'espère ne pas vous avoir noyé sur ces informations-là. Donc, n'hésitez pas s'il faut m'arrêter, faut... Voilà, dites-le-moi. Par rapport à ce mode de calcul précis, on ne peut pas vous donner en fait plus d'informations. Donc, on est reparti sur ce qu'il y avait l'année dernière, puisque la TH, on nous assure qu'on aura la somme à l'euro près. La baisse de la somme, par contre, produit fiscal plus allocation compensatrice, en fait, qui avait été constatée entre 2020 et 2021, elle provient simplement de ce fameux coefficient correcteur qui a été, lui, calculé avec le taux de TH 2017. Donc, c'est là où on risque d'avoir des différences. Après, la baisse des bases de taxes foncières bâties entre 2020 et 2021 n'est qu'apparente parce qu'elle provient donc de l'exonération de 50% des bases des locaux industriels et du recalcul des bases des locaux professionnels. Donc là aussi, on attendra un certain nombre de précisions avant de vous les annoncer. Est-ce que pour la partie fonctionnement, vous avez des interrogations ? Non ? On passe à l'investissement. Alors, on vous a fait part de l'ensemble des propositions qui avaient été vues en commission, dans les commissions, puis en commission des finances. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on y reviendra en fin de présentation. On va passer directement à la page 47, où là, vous avez les comptes de résultats 2020 qui vous montrent le résultat global de clôture, alors qui est difficile à comparer à l'année dernière puisqu'on a les budgets annexes eau et assainissement qui n'y sont plus. Donc ça nous fait un excédent global de clôture de 4 077 423 euros tout budget cumulé. On vous a sur la page 48 et 49 mis une rétrospective des comptes administratifs depuis 2016 qui vous permettent de voir en fait l'évolution. Donc ce que vous avez en fin de tableau une année, vous le retrouvez en entrée de tableau l'année suivante. Donc pour le CA 2020, vous voyez qu'en entrée de tableau, on était à 5 032 000 euros. Donc avec des produits de fonctionnement courant à hauteur de 15 175 000 euros. Vous pouvez le comparer à celui de 2019 pour 15 963 000 euros. Mais vous l'avez vu au moment du rapport sur les comptes de tout à l'heure. Ça nous fait des charges de fonctionnement hauteur de 13 millions et un excédent brut courant d'1 434 000 euros qui doit venir couvrir notre dette. Et qui, donc ça nous fait une épargne nette de moins 84 000 euros auquel vous rajoutez le financement d'investissement à 1 505 000 euros et nos dépenses à hauteur de 2 484 000 euros. Ça nous fait donc une variation. Bien sûr, c'est un budget, un compte qui a été fait sans emprunt. Ça nous fait une variation de fonds de roulement à moins 981 000 euros que vous retirez à votre entrée de tableau qui était à 5 032 000 euros, ce qui nous fait un fonds de roulement de fin d'exercice à 4 051 000 euros. Oui, monsieur Dauvergne.
Juste une petite question sur le fonds de roulement 2019. La fin d'exercice doit être repris normalement en fonds de roulement en début d'exercice de l'exercice suivant.
Oui, alors parce qu'il y avait la seule exception, c'est parce qu'on a intégré les excédents des budgets eau et assainissement que la commune a souhaité garder en délibérant lors des affectations.
D'accord.
Voilà. C'est juste ça la différence. Effectivement, j'aurais pu le préciser au départ de la présentation du compte. C'est bon ? On poursuit ? Donc, on vous a précisé l'état des restes à réaliser 2020 que nous devons couvrir sur les prévisions des budgets 2021. Donc, le budget 2021, la maquette a été faite en partant du principe que la fiscalité restait constante, en tenant compte donc d'un objectif d'1,5 million de résultats de clôture. On dit que pour nos strates, c'est le seuil qu'il faut atteindre. Et en intégrant donc les données transmises à ce jour, donc qui peuvent encore un petit peu évoluer jusqu'à l'élaboration du budget. Donc là, on retrouve bien donc notre fin d'exercice 2020 de 4 051 000 euros en entrée de tableau sur le budget 2021. On vous propose, donc, tel que nous l'avons énoncé en première partie de présentation, des produits de services à hauteur de 15 112 000 euros, des charges de fonctionnement à hauteur de 14 642 000 euros, ce qui nous fera un excédent brut courant de 470 000 euros, qui devrait couvrir notre dette, donc intérêt plus capital. Donc on est à moins 423 000 euros quand on ramène notre haut de tableau à la couverture de notre dette. Ça, c'est si on n'avait rien en excédent et en affectation en début d'exercice. C'est-à-dire que ça serait un budget neutre sans aucune balance de départ. Ensuite, au niveau des investissements, donc c'est là où je vous propose après de revoir les arbitrages tels qu'ils ont été faits. Si on veut partir du principe que on veut finir avec un fonds de roulement aux alentours d'1,5 million, on est parti à l'envers. On a mis le résultat d'1,476 million euros. On n'a pas mis d'emprunt. Et on vous a, pour vous permettre de choisir en fait et de voir le volume d'investissement que vous pouvez mobiliser, on est parti pour faire la soustraction et faire la différence en fait entre le résultat et ce que vous pouvez utiliser en termes de finance, en termes de dépenses d'investissement. Donc, sachant qu'on a des restes à réaliser à hauteur de 2 331 000 euros, on vous propose des dépenses d'équipement à hauteur de 3 704 000 euros, donc qu'il faut réduire avec les 2 331 000 euros. Et si vous revenez à votre page 46, vous voyez que dans les nouvelles propositions d'investissement, les commissions avaient fait remonter un besoin, enfin des propositions, à hauteur de 4 179 000 euros et qu'on vous propose un arbitrage, à hauteur d'1 372 000 euros. Donc nous ne sommes qu'en débat d'orientation budgétaire, rien n'est figé, rien n'est arrêté, les discussions sont encore ouvertes. Les priorités, généralement, donc nous, au niveau des services, quand on fait la lettre de cadrage, en fonction des objectifs que vous nous fixez en termes de fiscalité, en termes de maintien de service, de qualité de service, d'objectifs d'investissement, on propose aux commissions et aux techniciens de faire des priorités en termes de sécurité, ça c'est la première chose. En termes de vétusté, en termes après de priorité, bien sûr, par rapport aux choix et aux objectifs que vous avez fixés, et en termes de qualité de service, au niveau du bon fonctionnement en fait, des services. Une fois où vous avez livré tout ça, c'est vous qui travaillez en commission pour déterminer les choix et du volume d'investissement que nous vous proposons à 1,3 million.
Je voulais juste rajouter, donc on a des restes à réaliser importants parce qu'on a l'UCPA, effectivement, qui est dans ces restes à réaliser, donc qui donne une somme beaucoup plus importante que ce qu'on a habituellement dans nos restes à réaliser, avec également une année 2020 un peu particulière, puisque un certain nombre de choses ont été commencées, arrêtées avec les confinements, pas forcément terminées par les entreprises ou finies de livrer à un moment donné. Donc voilà, donc ce qui nous entraîne des retards et des restes à réaliser plus conséquents que d'habitude.
L'UCPA, on aurait dû plus consommer l'année dernière s'il n'y avait pas eu la crise.
Bien, est-ce qu'il y a des questions sur ce débat d'orientation budgétaire, Monsieur Balestra?
Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, effectivement, l'année qui s'annonce ne va pas être évidente. Le contexte est compliqué d'un point de vue sanitaire. Notre collectivité, déjà en 2020, a dû faire face à la crise et s'est mobilisée. Et demain, ce qui nous attend, c'est la gestion des conséquences économiques et sociales de cette épidémie. Et à notre échelle, avec nos moyens, il nous revient de bâtir un avenir meilleur. Sur les grandes orientations, vous connaissez le point de vue de notre groupe. Stopper l'artificialisation des sols, poursuivre les économies d'énergie, préserver notre environnement, notre cadre de vie, promouvoir des modes de vie solidaires, respectueux, c'est-à-dire viables. Et dans ce cadre, nous vous proposons que notre commune recours à l'exonération de taxes foncières sur les propriétés non bâties des terrains agricoles exploités en mode biologique. Donc en vertu de l'article 1395 du Code général des impôts, ce serait là un signe fort lancé par notre collectivité pour aider les agriculteurs qui s'engagent dans une démarche plus respectueuse de l'environnement, et ce serait surtout inciter d'autres à les rejoindre. Voilà la proposition que nous vous formulons ce soir et que l'on pourra étudier ensemble et valider, si vous en êtes d'accord, lors du vote du budget. Merci.
Écoutez, c'est une question qui devrait être abordée par la commission des finances, bien entendu, parce que, comme toute proposition, il faut qu'il y ait une évaluation à un moment donné, à laquelle je suis incapable de répondre, très honnêtement, moi, ce soir. Moi, je souhaite que à la fois la commission urbanisme, qui pourra nous donner un certain nombre d'éléments, et la commission des finances puissent s'emparer de cette question-là et puissent nous donner les orientations qui seront débattues lors de cette commission. Voilà. J'entends la proposition. On demandera où il y a la DGFiP s'ils ont des éléments un peu plus précis. Au choix, Monsieur d'Auvergne.
Juste pour compléter les propos de Yoann, c'est que si bon, vous dites bien, Monsieur le maire, qu'on devrait discuter de cette proposition en commission, ça je l'entends bien, mais si on ne la décide pas cette année, elle ne sera pas applicable l'année prochaine, parce que cette décision n'est applicable que s'il y a les votés cette année. Voilà. Pour être appliqué l'année prochaine. Donc c'est pour ça qu'il faut être quand même assez...
Oui, mais dans ma tête, c'était une commission des finances avant le vote du budget.
Tout à fait.
Donc voilà. Donc comme les taux sont votés au moment du vote du budget, les taux sont votés, donc s'il y a exonération, elle peut être votée au moment du vote du budget, si la commission des finances s'en est emparée avant. Là, ça ne me paraît pas une discussion très longue, il faut juste qu'il y ait une analyse financière pour savoir quel est le coût et quels sont les terrains qui éventuellement seraient concernés. Mais là, il doit y avoir une codification des GFIP, je pense, particulière sur ce type de terrain.
Et oui, donc, Monsieur Balestra. Simplement pour répondre à votre question et vous apporter juste quelques éléments chiffrés. Aujourd'hui, sur notre commune, on serait donc sur 2858 hectares exploités, dont 379 aujourd'hui en agriculture biologique. Donc on pourra confronter les chiffres que vous aurez par ailleurs avec ceux qui ont été fournis par les services de l'État et qu'on peut trouver très librement. Voilà. Donc ça fait un ratio aujourd'hui, selon mes calculs, de 13,26% d'agriculture biologique. Donc la proposition, c'est d'essayer d'accompagner et de renforcer ce mouvement.
Oui, donc, mais on demandera, parce que la DGFiP a les dernières données exactes, parce que des fois on a des terrains, mais on a des fois plus personne dessus. Donc il faut qu'on regarde précisément. Bien, est-ce qu'il y a... Donc on le note pour la prochaine commission des finances. Hein, et on va demander les renseignements auprès de monsieur... Je pense que c'est peut-être monsieur Fonton, là, à la DGFiP. D'autres questions sur le débat d'orientation budgétaire ? Non, donc je vous propose de prendre acte que ce débat s'est tenu, pas de problème. Et donc l'ordre du jour est arrivé à son terme. Je lève la séance et je vous souhaite une bonne soirée.